Entourage, présenté par Kevin et Larbi. Une bulle d'intimité sur Beta Série, la radio.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Nous continuons nos podcasts exceptionnels cet été avec Beta Série, nos podcasts autour de la cinématographie et de l'acting. Un podcast aujourd'hui avec Stéphane Konarsk. Stéphane Konarsk qui est la vedette de la série Das Boot, une série qui est diffusée en France sur Starzplay. Je vous en parle dans quelques minutes. Le temps pour moi de vous rappeler que nos anciens podcasts sont toujours disponibles sur Beta Série en langue française et en langue anglaise, ainsi que sur toutes les plateformes de podcasts. Cet été, nous avons eu le bonheur de nous entretenir avec le casting complet de Perry Mason ainsi que les producteurs et les auteurs de la série. Nous avons également parlé acting avec Lula Coton-Frappier, une jeune comédienne que vous connaissez par la série Scam France, et puis évidemment la masterclass exceptionnelle de Judd Apatow. C'était notre précédente émission. Judd Apatow qui est probablement l'un des showrunners les plus importants aux États-Unis. Il nous a parlé pendant une heure de filmographie et de filmmaking pour la sortie de The King of Staten Island sur Universal en France. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de Das Boot. Das Boot, c'est une série allemande, mais c'est une série européenne, puisque tournée dans de multiples pays d'Europe. Une série dont la saison 2 très attendue commence demain, si vous écoutez cette émission en direct ou dans la nuit, ou alors elle est déjà disponible sur Starzplay si vous nous rattrapez en replay. C'est Starzplay, donc une petite plateforme qui monte, une plateforme importante avec des séries importantes. On va beaucoup en parler dans Entourage ces prochains mois. Aux États-Unis, c'est Hulu qui programme cette série. En Angleterre, c'est Sky, donc vous le voyez, une série diffusée mondialement. Avant de vous parler de Das Boot avec Stephen Konarst, donc qui est l'une des vedettes masculines de la série, peut-être vous dire que Das Boot est une série qui prend parti sur le film de 1980, un film underground allemand très important qui s'appelait justement Das Boot. Il n'y a pas besoin de voir ce film-là pour regarder la série, mais si vous voulez aller plus avant, je vous conseille de regarder ce film et ensuite de regarder donc cette série avec une saison 1 différente de la saison 2 que vous allez pouvoir donc découvrir sur Starzplay, qui parle donc des protagonistes d'un sous-marin allemand lors de la Seconde Guerre mondiale. Une série qui est tournée dans différentes villes d'Europe, notamment Bavaria, pour les décors intérieurs du sous-marin. Et puis, dans notre hexagone à nous, puisque l'île de Ré et La Rochelle sont les vedettes en décor de cette saison 2. À savoir que, vous le savez, je vous le dis souvent dans Entourage, les décors sont les personnages principaux du film, au même titre que les acteurs et les filmmakers que nous avons eu autour de cette table ou alors en vidéoconférence nous le rappelait également. Avant d'aller dans notre conversation avec Stephen Connors, peut-être un premier extrait en français cette fois-ci. Je vous quitterai tout à l'heure avec un extrait en allemand. Un extrait en français donc de Das Boot qui, je le rappelle, est disponible sur Starzplay en France.
Marco, tu as changé. Tu sais, avec tout ce qui s'est passé ici, tout ce que j'ai vu là-bas, les réfugiés à Marseille, toute cette souffrance. Et toi aussi, tu l'as vu. Il paraît que Forster a détruit un réseau local de résistants.
Qu'est-ce que t'en sais, toi? C'est en détruisant cette cellule qu'une centaine de personnes ont été sauvées. Toi. Toi aussi, tu as été sauvé, Marco.
Voilà un premier extrait de Das Boot, disponible donc sur Starzplay, une série, je vous le disais avant l'extrait, hein, tournée dans de multiples pays en Europe, un peu à la manière de Game of Thrones. Je vous rappelle Game of Thrones qui a été tournée en Roumanie, qui a été tournée en Espagne, qui a été tournée en Irlande, également aux États-Unis. Si vous aimez justement ces histoires de lieux de tournage un petit peu inédits et comment jouer dans ces lieux de tournage différents, on va en parler dans quelques minutes avec Stephen Konarsk, que justement, je vous ramène à mon livre Ma folle histoire du cinéma qui justement développe ce thème, notamment en ce qui concerne Game of Thrones, disponible en numérique et en papier aux éditions Ocré. C'était pour le moment autopromo, mais je pense que ça pourrait vous intéresser si vous êtes sériephile et cinéphile. Tout de suite donc, nous allons retrouver Stéphane Konarsk, un entretien que nous avons enregistré il y a quelques semaines de cela. Vous le savez, hein, avec ce qui se passe en ce moment dans le monde, nos entretiens, surtout internationaux, sont en vidéoconférence ou au téléphone. Stéphane Konarsk, pour si vous ne connaissez pas Das Boot, et je vous invite vraiment à regarder cette série, vous l'avez peut-être vu dans Valerian, le le film de Luc Besson, et également dans différentes séries diffusées sur Arte. Je vous en reparlerai après, puisque je pense que cet entretien risque d'intéresser les cinéphiles, et je vous parlerai donc de la filmographie de Stephen Connors avec quelques sélections personnelles juste après notre entretien. Je vous laisse donc tout de suite avec Stephen Connors, et je vous retrouve juste après.
Entourage, l'interview.
Alors, je suis très content donc de t'avoir au téléphone pour cette saison 2 de Das Boot, une saison qui était très attendue, hein, qui arrive en France à la fin août sur la plateforme Stars Play. Alors, avant d'aller peut-être dans des détails un petit peu plus techniques, pourrais-tu, pour toi, quand tu as lu le scénario, nous dire quelle était la différence majeure entre la saison 1 et la saison 2, hein. Il y a beaucoup de choses qui changent d'une manière technique, mais pour ton personnage aussi. Alors, comment est-ce que tu expliquerais l'évolution de ton personnage ?
Bah, moi au début c'était un peu compliqué, c'est comme tu dis, parce que dans la première saison j'ai l'impression que mon personnage, en fait, c'est toujours quelqu'un qui est à l'attente, en fait. Il attend une action, donc il se met en réaction à cette action, donc il était moins actif, en fait, dans la première saison. Il disait beaucoup moins de choses, il était toujours couché dans son lit en train de surveiller la situation, mais dès qu'il a dit quelque chose, c'était quelque chose de précis, c'était quelque chose qui pesait lourd. Et là, dans la deuxième saison, c'était tout à fait un conflit pour moi dès le début. Je le dis pendant la première lecture avec tout le monde que pour moi, en fait, j'ai l'impression que c'est un autre personnage. C'est plus vraiment mon personnage, puisque j'ai l'impression, en fait, dans l'écriture, on a perdu mon personnage, parce que j'étais actif, j'ai dit beaucoup de choses, je me suis toujours mis en action, j'ai toujours avancé le truc. Et pour moi, c'était ça, une sorte de petit conflit, en fait. Et je pense que ça, je l'ai pris aussi dans le jeu, et c'est pour ça que même si ce personnage qui, dans la première saison, qui est déjà une sorte de héros, qui rentre d'une grosse bataille, même si les circonstances ne sont pas vraiment la réalité de tout ce qui s'est passé, qui redevient un héros, qui est même couronné en héros en début de la deuxième saison et qui se transforme en quelqu'un de méchant. Je pense, en fait, c'est aussi le conflit du personnage que j'ai mis dans le jeu. C'est pour ça que ça fonctionne à la fin. Et même pendant le tournage, on n'a pas vraiment ressenti. Moi, en le faisant, j'ai pas vraiment senti que c'est quelque chose qui se révèle du coup. Parce que même dans la deuxième saison, c'est pas vraiment un rôle principal, mais ça s'est transformé en sorte de rôle principal. C'est l'ensemble du travail qu'on a fait tous ensemble avec le réal, avec la costumière, avec les circonstances de tournage, etc. Donc oui, j'ai ressenti ce conflit comme toi tu viens de le dire aussi, mais je trouve qu'on a quand même trouvé un bon équilibre, qu'on puisse se permettre de raconter ce personnage dans cette manière.
Oui, parce que il faut le dire, et puis c'est un petit peu comme ça que tous mes collègues journalistes parlent de ton personnage, hein. Il y a beaucoup de personnages complexes dans cette série, mais tu es un peu the villain we love to hate, c'est-à-dire ce personnage méchant qu'on adore détester. Et du coup, alors moi voilà, c'est ce qui m'a striké dans la série, c'est tous ces...
Ah, il y a déjà quelque chose qui est sorti en France, parce que moi je suis en Allemagne depuis 6 semaines.
Si, ah oui, il y a déjà des petites choses, il y a déjà des petites analyses, etc. Ah ben, tu vois, premier sur le coup, Kevin. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, au niveau des lieux de tournage, parce que ça, c'est ce qu'il faut expliquer aussi aux éditeurs français, c'est que c'est une série avec un gros budget, mais une série aussi qui demande dans le plan de travail différents et dans les repérages différents axes de tournage. Comment est-ce que tu as géré ce tournage où vous tourniez sur différents continents? Ma première question, c'est comment as-tu géré ce tournage sur différents continents, et ensuite, est-ce que pendant le tournage, comme ça parle de choses très spécifiques, hein, de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands qui veulent éviter le débarquement à La Rochelle, etc. et tout, est-ce que tu as fait un travail de recherche pendant le tournage sur justement certaines choses de la Seconde Guerre mondiale dans ces endroits précis, La Rochelle, etc. Comment ça s'est fait sur ces différents lieux de tournage?
Oui, c'est une série que je pense que cette année, ils ont tourné à La Rochelle, ils ont raconté tout New York. À Liverpool et à Manchester. Moi, j'étais pas à Liverpool ni à Manchester, à La Rochelle. Première saison, j'ai passé beaucoup de temps, pas beaucoup de temps, mais quelques jours. Deuxième saison, j'ai passé qu'une journée là-bas. Donc, j'ai fait vraiment aller-retour Paris-La Rochelle. On a tourné beaucoup à Prague, comme la première saison. En fait, tout ce qui est l'intérieur du sous-marin, Moi, dans la série, je suis que dans le sous-marin, donc je peux pas te dire grand-chose. Comment ça s'est passé à La Rochelle, comment ça s'est passé
non, mais peut-être justement
de New York et compagnie.
Sur le fait de faire un tournage, j'allais dire international, etc. Mais avec justement des équipes qui vont d'un pays à l'autre, etc. Est-ce que ça donne, c'est plus ça ma question, est-ce que ça donne une certaine ambiance sur le plateau, une ambiance d'aventurier pour les techniciens, etc. Puisque du coup, vous changez de décor de mois
en
mois.
Ah oui. Ah oui, si. Bah, rien que tourner à Prague, parce que la première saison, j'ai passé quasiment 2 mois et demi à Prague. La deuxième saison, j'ai passé aussi quasiment 2 mois. Et on retrouve les mêmes gens, en fait. C'est la même boîte de production. Il y a même certains, beaucoup de gens qui bossent sur le même poste et qui sont toujours là. Donc, moi, c'était un grand plaisir de retrouver ces personnes-là. Et il y a tellement de différentes nationalités sur le plateau. Il y a des comédiens français, anglais, américains, allemands. Il y a des techniciens allemands. Il y a beaucoup de gens qui viennent de la Tchéquie, donc des gens de Prague qui viennent avec nous, même aussi à Malte, pour mettre en place le plateau et compagnie. Donc c'est vraiment une sorte de grande famille avec beaucoup de langues qui seront parlées sur le plateau et beaucoup de mentalités aussi qui sont sur place, et c'est ça qui donne cette énergie. Si, c'est une sorte de famille. Moi, je suis toujours ami avec la costumière qui est française, qui s'appelle Chatoun, qui est une femme extraordinaire. C'est vraiment des gens qui donnent beaucoup de leur temps aussi. C'est ce qu'il faut dire, parce que le tournage, il dure en tout entre 5 mois, 5 mois et demi. Donc, ça veut dire la boîte de production nous demande un certain temps de dire oui, on participe à votre projet, on est disponible pendant 5 mois et demi. Donc, c'est vraiment une longue période pendant laquelle on n'est quasiment pas capable de tourner autre chose. Et on donne cet accord avant d'avoir lu le scénario aussi, il faut le dire. Donc il y a juste une discussion avec le producteur qui dit, écoute, dans cette manière, j'ai envie de raconter ton personnage, mais il n'y a rien d'écrit pour le moment. Donc on accepte aussi de se dire, ok, j'accepte à quelque chose. Et pour moi, c'est la base de tout ça, c'est de la confiance.
Et je voulais
parler de la situation de... Oui, pardon. Pour revenir à ta question de préparation de Deuxième Guerre mondiale, etc. Moi, je suis pas ce genre de comédien qui se demande beaucoup de choses là-dessus, parce que moi, je travaille plus vraiment dans la psychologie du personnage, dans l'énergie avec tout ce qui m'entoure. Donc, je préfère de prendre la situation, de me dire, ok, je suis en effet dans un sous-marin, mais ce sous-marin, il est basé dans un studio à Prague. Et moi, j'ai vécu ça déjà dans mon école de la dramatique. Donc, moi, j'ai pas besoin de ressentir, parce que la psychologie, en fait, la peur, c'est la peur. Tout ce qui se met en place dans la psychologie, c'est la peur. C'est pas la peur à cause de quelque chose. C'est ça
mais
que
bien
je veux
sûr.
Dire. Donc.
Mais
et
peut-être
tout ce que j'ai besoin, je demande, parce que oui.
Peut-être, je dis peut-être, aurais-tu pu regarder justement des films ou pour justement t'imprégner de l'univers au-delà du personnage, etc. Mais ou peut-être du coup que sur cette période-là, tu avais ton imaginaire. Donc ça, c'est bien, parce que chaque acteur que j'ai
change. Ah si, mais tout ça, oui, bien sûr. Moi, je suis quelqu'un de cinéaste, donc même là aussi pour la préparation, je re-regardais Das Boot, le film
original. Le film de 1980.
Le film des années 80. Voilà, là j'ai en même temps je regardais Kursk qui est sorti quasiment en même temps des tournages. Après ça, il y avait aussi un autre film de sous-marin avec Omar Sy, je pense. Oui, ça je regardais aussi. Donc oui, mais là aussi
avec Omar Sharif, tu veux dire.
La question, est-ce que ça joue en 1940? Comment?
Avec Omar Sharif.
Avec Omar Sy. Il y a un autre film.
Ah oui.
Non, Omar Sy.
Ah, je n'ai pas
ça.
Oui, bien sûr. Alors, j'avais pas le film en tête, parce que j'avais plutôt K-19 avec Harrison Ford, mais ce film-là, je l'avais pas en tête.
Je pense qu'il y a François Civil aussi qui joue dedans, Omar Sy, François Civil, je sais pas qui d'autre.
D'accord. Alors, ça, à voir, un film que je n'aurais pas vu. Sur l'aspect cosmopolite du plateau, puisque tu disais tout à l'heure que c'est un plateau que tu te régalais sur un plateau avec différentes cultures, différentes langues, différentes mentalités. Alors,
j'adore.
Comment ça se passait vraiment? Est-ce que déjà c'est la première fois que tu fais un plateau avec autant de cultures différentes? Comment ça se passait? Quelle langue est-ce que vous parliez sur le plateau? Et puis ça va m'amener aussi à ton travail en différentes langues en tant qu'acteur. Est-ce que, puisque la série est en version multilingue, donc comment ça s'est passé justement ce jeu en version multilingue? Donc peut-être d'abord sur le derrière, dans les coulisses avec l'équipe, et puis après sur le plateau.
Bah derrière l'équipe, oui, c'était un grand mélange de... Surtout allemand, parce que le réalisateur, il était allemand. La plupart des comédiens dans la scène où moi je travaillais, c'était des allemands. Mais il y avait un mélange d'allemand, avec beaucoup d'anglais. Les Tchèques, entre eux, ils ont communiqué tout ça en tchèque, donc beaucoup de Tchèques aussi. Français, parce qu'il y avait des comédiens français. C'était un mélange de tout le monde. Donc tout le monde a essayé de parler anglais entre eux, mais il y a des différents groupes qui se sont créés. Il y a des gens qui parlent comme moi les trois langues, donc moi je remarque même plus, parce que moi je switch entre les langues et je remarque pas quoi. Parce que là j'ai vraiment parlé allemand, parfois je parle allemand à des gens qui parlent français, qui me regardent et qui reprennent anglais, donc pour moi je suis un peu habitué à ça, parce que Dashboard c'était pas la première fois que j'ai vécu ça. La première vraie expérience dans ce cas, c'était avec Raoul Peck, parce que le jeune Karl Marx, avec Raoul Peck, là aussi c'était une production franco-belge-allemande, et dans le film, on a joué beaucoup là-dessus aussi, quand est-ce qu'il change de langue, parce que c'est moi j'ai joué Friedrich Engels, oui. Augustin a joué Karl Marx, Vicky Krieps a joué la femme de Karl Marx, qui était basée entre la Belgique, la France, l'Angleterre, l'Allemagne. Donc eux, même dans les scènes, on avait essayé de trouver un sens quand est-ce qu'on change de langue, pourquoi le personnage du coup switch entre le français et l'allemand. Et pendant Das Boot, c'était, ils ont tous tourné quasiment dans la propre langue. Donc les Allemands, et ils ont pris des comédiens de différents pays. Les Français sont des comédiens français, les Allemands sont des Allemands. Et à part Tom Vischa qui est allemand mais qui parle anglais, et Vicky Krieps qui est à la base luxembourgeoise et qui parle français anglais, je pense dans la série, ils sont restés tous quasiment dans leur langue. Et c'est ce que j'adore, parce que tu viens de le citer, parce que il y a aussi une version française de la deuxième saison, même de la première saison sur Starzplay. Oui, et moi je fais moi-même mes doublages en fait, et moi j'adore ça parce que c'est bizarre, parce que le corps il a vécu ça pendant le tournage, donc c'est tellement dans le corps, même si c'est dans une autre langue. Moi j'adore faire le doublage de ça parce que c'est assez facile en fait.
C'est très intéressant.
C'est bizarre de le dire, mais c'est parce que du coup la langue ça redevient juste une sorte d'instrument qui essaye de transmettre ce qu'on a déjà vécu.
Et du coup, la
langue, ça devient une sorte de sonorité ou une sorte de musicalité. Et ça, j'ai pu le vivre deux fois, là, non, trois fois avec Raoul Peck aussi. J'ai fait aussi les doublages du jeune Karl Marx. C'est assez étonnant. Je sais pas, c'est
donc ça veut dire que sur le plateau, c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a beaucoup de comédiens qui n'aiment pas forcément la post-synchronisation, ce qu'on appelle comme ça quand on doit refaire des scènes, ou le doublage quand il faut doubler un film en entier. Ouais, toi, c'est quelque chose que tu aimes, et donc c'est intéressant de t'entendre parler là-dessus. Ça veut dire que du coup, en quelle langue est-ce que tu faisais les scènes, et ensuite quelle langue tu redoublais? Est-ce que vous tourniez en plusieurs langues sur le plateau? Voilà, qu'est-ce que tu faisais en studio et qu'est-ce que tu faisais sur le plateau?
Oui. Dans Das Boot, j'ai tourné tous mes scènes en allemand. Donc,
d'accord.
Tout a été tourné en allemand et je me suis doublé moi-même. Donc, j'ai donné moi la voix française à mon personnage allemand.
D'accord, très bien.
Parce que même là, quand je te parle, moi, en allemand, j'ai une autre voix. C'est bizarre, mais j'ai pas la même.
Est-ce que tu pourrais nous dire une petite phrase en allemand qu'on comprenne justement la différence de sonorité?
Wenn ich Deutsch spreche, dann habe ich diese Tonlage.
Ah oui, c'est
la différence
clair.
En français, je suis beaucoup plus bas. En allemand, je suis comme ça. C'est juste ça que je veux dire.
Et ça change ton jeu.
Tu vas le remarquer si tu regardes la version. Oui, bien sûr.
Alors comment
même
ça
en français, mais... Ah oui. C'est une autre manière de jouer en fait. En français, quand je me prépare en français, bien évidemment, je suis au courant de ce que je dis parce que je parle français. Mais quand je parle français, déjà, le fait de m'approcher à un personnage, c'est complètement différent.
Donc, ça veut dire, est-ce que tu rajoutes des nuances? Est-ce que ça veut dire que du coup, quand tu fais le doublage quelques mois après le tournage dans l'autre langue, donc là pour le coup en français, ça te permet peut-être de rajouter peut-être d'autres nuances au personnage, une autre composition, et qu'en fait on a deux personnages.
Ah mais c'est la langue, c'est pas que le jeu, c'est rien que la sonorité, c'est la musicalité. Moi j'ai vécu ça au théâtre, moi j'ai fait une production de théâtre à la Colline en France à Paris, ce qui est le très grand théâtre contemporain national de la France, voilà, avec un metteur en scène allemand. Et qui me dit, Stéphane, dans ce personnage, c'était un monologue dans la mission, ça s'appelle une pièce d'Anna Müller. C'était un long monologue de 20 ou 25 pages, donc ça a duré 35 minutes. Il m'a dit, je cherche quelque chose de très méchant, de très fermé, de très... Donc, à vrai dire, quelque chose allemand. J'ai dit ça aussi. En fait, je cherche quelque chose allemand. Donc, dans ce cas, pourquoi tu le fais en français? Il me regarde, il me dit, mais je comprends pas. J'ai dit, écoute, si tu veux, je te prépare le monologue. En entier, je m'en fiche, parce que comme ça, ça me fait apprendre le français en même temps. En français, en allemand. Je te le présente d'abord en allemand. Je l'ai présenté en allemand. Il m'a encore poussé. Il m'a dit, non, plus que ça, plus sévère. L'allemand, l'allemand. Je dis, bon, d'accord, je vais faire l'allemand. 3 jours après, je l'ai présenté en français. Il me regarde, il me dit, ah, c'est quoi ça? Je dis, écoute, c'est ça, ça donne ça en français. Parce que le français, c'est pas quelque chose de, le français, c'est quelque chose de très doux. Le français, c'est quelque chose de, c'est chanter, c'est, et il a pas compris. Il a pas compris. Et c'est ça la grande différence. Donc, si je fais le doublage de mon personnage, en français, c'est dur de retrouver cette dureté, cette étrangeté de super-héros de la Deuxième Guerre mondiale. C'est possible, mais c'est pas la même chose.
Je suis très content de t'entendre là-dessus. C'est intéressant pour les étudiants en cinéma qui nous écoutent, cette différence de sonorité sur le doublage. Le temps passe vite. Je veux vraiment, alors si on peut répondre très rapidement, parce que j'aurai une dernière question après. T'es habitué à des séries, à des séries européennes, des séries de coproduction étrangère et surtout des séries historiques. Moi, je t'avais vu il y a quelques années dans un super téléfilm de France Télévisions autour de Victor Hugo, dans lequel tu jouais Bonaparte, me semble-t-il. Et je t'avais vu aussi, il y avait Freud, il y avait Marx, etc. Donc tu es habitué à différentes productions. Pourtant, tu dis dans différentes conversations que je peux lire ça et là que celle-là reste pour toi la plus grosse, etc. Alors que tu es habitué déjà à des gros projets. Qu'est-ce qui fait que celle-là te paraît beaucoup... Tu dis que c'est ton expérience d'ailleurs la plus extraordinaire d'un point de vue de gigantesque du plateau. Qu'est-ce qui change par rapport aux autres séries? Parce que Freud, Marx, voire Hugo étaient quand même des grosses prods quand même.
Oui, je sais pas ce qui change vraiment, parce que moi j'ai vécu ça aussi avec Luc Besson.
Même si oui, tu as fait Valérian.
J'ai aussi, Valérian de Luc Besson, j'ai vu aussi un plateau énorme. Bon, là-bas, c'est sûr, c'était avec American Touch, donc ils ont tous parlé anglais, bien évidemment. Mais, qu'est-ce qui change? Oui, c'est impressionnant, mais moi j'essaie pas de me laisser impressionner de tout ça, parce que si je me laisse impressionner par tout ce qui m'arrive dans ma vie là en ce moment, c'est du bonheur. Donc je suis très content de pouvoir retravailler déjà. Tu vois, c'est toujours le Covid, même on amène, c'est compliqué le tournage, mais je viens de terminer, il me reste un jour. Même là, on a décalé 5 ou 6 jours parce qu'il y avait des problèmes de sanitaire et compagnie. Mais je suis très content de demain, je termine le tournage, donc j'ai un autre film en poche, hein, parce que ça aussi, je suis... Je dis merci parce que je sais c'est pas normal en ce moment, donc moi j'essaie de rester. C'est un boulot, tu vois. Pour moi ça reste un boulot.
Tu as bien
raison. C'est un boulot comme tien, c'est un boulot comme tout le monde et je sais pas. C'est oui, je suis content et je suis toujours. Je reste gracieux et je dis à tout le monde merci parce que c'est une grande chance et je suis au courant de ça et je sais d'où je viens et. C'est comme ça que je vois mon métier.
Et tu as bien raison.
Je vois
mon
métier comme ça.
En plus, ce sont des projets à chaque fois qui élèvent l'âme et l'esprit. Ce sont des très très beaux projets que tu fais. Donc, on espère que tu continueras à ne pas te poser de questions, à tourner longtemps. Juste avant qu'on se quitte, Stéphane, une petite question. J'aurais aimé savoir puisqu'il y a beaucoup d'étudiants en cinéma qui sont à l'écoute de ce podcast, et c'est la question que je pose à tous mes invités. Oui. J'aimerais que tu me donnes une série qui a changé ta vie. Alors, ça peut être ta vie personnelle ou ta manière de voir le métier d'acteur ou une série et un film. Et ensuite, on va se quitter.
Oui. Moi, je suis fan de Dark.
Très bien.
Là aussi, je me suis mis à regarder Dark parce que j'ai là dans mon téléfilm allemand, je tourne avec Jordi Stribel. C'est une comédienne que j'adore. Moi, j'ai adoré les 3 premières saisons de Casa de Papel. Les 2 premières. Ensuite, j'ai moins aimé, mais ça aussi, la première pour moi, c'était ça m'a changé un peu la vie parce que je me suis dit ça pour une production espagnole à la base qui a été vendue déjà et qui n'a pas vraiment été acceptée de faire un tel succès, ça m'a rendu heureux parce que j'ai pu rencontrer la productrice il y a 3 ans parce que j'étais invité aux International Emmy Awards et j'ai pu parler à elle, c'était un plaisir de voir que même en Europe c'est possible de faire ça parce que c'est quelque chose de rare, je trouve, c'est quelque chose qui m'a impressionné.
Et un film, peut-être très rapidement. Un film qui pour toi change ta...
Ah, j'ai pas été au cinéma depuis 10 ans.
Ça peut être un classique. Si c'est un classique, ça m'arrange. Si c'est un vieux film, un classique.
Si c'est un classique, qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis très grand fan de Rebecca Zlotowski, par exemple. Grand Central, j'ai vraiment aimé.
Grand Central.
Et ensuite, le film avec Natalie Portman, mais c'est plus qu'un Grand Central de Rebecca Zlotowski, c'est quelque chose que j'ai aimé, parce qu'elle était jeune, et je trouve qu'elle a trouvé quelque chose qui m'avait accroché. Je me rappelle du bleu, il y a beaucoup de bleu dans ce film.
Oui, tu as raison, il y a un grand travail du chef opérateur autour de cette lumière d'ailleurs. Mais on pourra s'en reparler peut-être à la prochaine saison de Das Boot, où j'espère t'avoir avec moi sur le plateau et aller plus avant du coup dans la technique. En tout cas, ça a été un bonheur de parler avec toi. Merci beaucoup, je vais te laisser parce que je sais que tu enchaînes les interviews après. Et puis peut-être au plaisir de te retrouver dans le podcast très bientôt. Das Boot, c'est donc sur Stars Plays. Merci beaucoup Stéphane Konarsk.
Merci à toi Das Boot ou autre chose, moi je veux bien, merci à toi.
Avec grand plaisir, au revoir.
Au revoir.
Entourage, l'interview.
Voilà, hein, vous le voyez, quelqu'un de passionné et de passionnant, hein, Stéphane Konarsk, un petit peu comme tous les filmmakers ou acteurs que nous avons eu dans Entourage dans cette saison qui arrive bientôt à sa fin avant de nous retrouver pour de nouvelles aventures. Je vous le disais avant l'entretien, j'ai fait ma petite sélection de films de Stéphane Konarsk qu'il est utile de regarder si vous aimez son jeu dans Das Boot, Valérian évidemment de Luc Besson, mais surtout les aventures du jeune Karl Marx, The Young Karl Marx dans son titre original, où il est assez extraordinaire, où tous les acteurs sont d'ailleurs formidables, une écriture vraiment pointue et surtout, j'ai été très attaché au travail du chef opérateur avec une lumière qui est liée au travail sur les costumes. Donc une série à voir si vous aimez les séries historiques, les séries politiques, les séries où il faut réfléchir et parfois c'est toujours bon de réfléchir au cinéma ou dans les séries. Voilà pour donc cet entretien avec Stéphane Konarsk. Das Boot est donc disponible sur Stars Play. Nous vous retrouvons très vite pour de nouveaux podcasts Entourage. D'ailleurs, je peux d'ailleurs vous dire qu'avec OCS, je vais partir au Festival du cinéma américain de Deauville. Dans quelques jours, hein, si vous écoutez ce podcast là fin août, nous vous parlerons évidemment sur les réseaux sociaux de Beta Série et des miens @KevinElArby de la programmation et des talents invités. Vous comprenez bien qu'avec la situation internationale, tout se fait un petit peu à la dernière minute en ce moment. Je vous invite également à retrouver nos anciens podcasts qui sont toutes sur les plateformes de téléchargement type Spotify, Deezer ou Apple Podcast, version originale sur Beta Série. Merci à Anthony Navarro qui a mixé cette émission au son. Merci à Mathilde Dandeux qui m'a aidé à la collaboration de cette émission. Merci au producteur de Beta Série, Rémi. Il me tarde de vous retrouver pour d'autres aventures. Regardez Das Boot et surtout continuez à aller en salle. Les exploitants ont besoin de vous, donc regardez des séries, mais allez en salle également. À très bientôt sur Beta Série.
Wasserbomben. Eins. Zwei. Wasserbomben. Eins. Zwei.
70 Meter. Boot fällt.
Wir müssen es lieber gehen.
Nützt nichts. Das heißt nicht, so wie ich versuche da unten.
Neuer Kurs.
008. 1100 Meter unten durch.
Unter den Frachter.
Unter die Überlebenden.
Entourage. Présenté par Kevin Elarbi. Une bulle d'intimité sur Beta Série, la radio.